Seigneur, après t'avoir honoré par nos chants, après t'avoir élevé par nos cantiques, après nous être exprimés d'une manière ou d'une autre en ta présence, pour te dire combien, Seigneur, nous t'aimons, combien nous tenons absolument à marcher avec toi, à rester attachés à toi, après ce temps que tu nous as accordé, ô Dieu, tant qu'il nous a permis, Seigneur, de pousser des cris de joie, de faire monter vers toi nos prières, quelles qu'elles soient. Voici le moment arrivé où nous devons maintenant, et en toute humilité, avec crainte et tremblement, nous asseoir à tes pieds afin que tu nous parles. Nous avons besoin de grandir et de croître dans ta connaissance. C'est alors, ô Dieu, que nous pourrions nous approprier de toutes les richesses, de toutes les ressources qui sont les nôtres. C'est alors que nous serons véritablement à l'abri de toute crise d'identité, quelle qu'elle soit. Car en toi, Seigneur, nous sommes les enfants bien-aimés du Père. En toi, ô Dieu, nous avons été pardonnés pour toutes nos offenses. En toi, Seigneur, nous sommes réconciliés avec le Père. En toi, ô Dieu, ô Jésus, nous sommes héritiers du royaume des cieux. En toi, Seigneur Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, nous bénissons ton nom pour toutes les grâces, Seigneur, innombrables, des grâces qui sont les nôtres de par notre position en toi. Merci, Jésus, pour être venu un jour sur cette terre, pour être monté volontairement sur ce bois infâme de la croix, pour y mourir, afin de nous sauver, Seigneur, du siècle présent, afin de nous délivrer de tous ces liens, de toutes ces chaînes desquelles nous étions esclaves. Merci, ô Dieu, d'avoir posé ta vie à la croix, car par ta mort, tu nous as acquis un salut total, parfait, entier. Et ce salut, Seigneur, nous l'avons saisi un jour par la foi. Car c'est par grâce que tout homme est sauvé, au moyen de la foi en toi et dans ton œuvre. Oh, merci. Merci, Seigneur. Non seulement tu es mort, tu as posé ta vie à la croix, mais au troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Au troisième jour, ô Dieu, tu es sorti vainqueur du tombeau, vainqueur de la mort, vainqueur du péché, vainqueur de la sorcellerie, vainqueur, ô Dieu, des puissants des ténèbres, vainqueur des sociétés mystiques, vainqueur du diable, vainqueur des principautés démoniaques, que tu as livré publiquement spectacle, en triomphant de tout cela, par ta mort et par ta résurrection. Ô Seigneur, tout en nous est en ébullition, car il n'en saurait être autrement, Seigneur. Comment parler d'un Dieu comme toi et ne pas se sentir excité, passionné? Comment parler d'un Dieu comme toi, Seigneur, qui a tant fait pour nous? Et le faire avec tiédeur. Parle-nous ce matin. Aide-nous à grandir, Seigneur, dans ta connaissance. Parle-nous ce matin. Et donne-nous d'aller au Dieu de victoire en victoire. Nous voulons être un peuple qui va, Seigneur, de gloire en gloire. Nous faisons partie de ton armée. Cette armée qui est condamnée à la victoire éternelle. Cette armée qui terrasse tout sur son passage. Oh, merci pour le mouvement de ton esprit à travers le monde. Tu prépares ton Église, Seigneur, à l'enlèvement. Tu appelles les hommes et les femmes à la repentance. Seigneur, au salut que tu offres gratuitement. Tu libères tous ceux qui sont esclaves de leur religion morte et obscurantiste. Tu délivres tous ceux qui sont liés par la tradition. Seigneur, par toutes sortes de liens ésotériques. Tu délivres tout cela, ces athées. Ceux qui sont tombés dans, Seigneur, victimes de toutes sortes de croyances, aux dieux insipides et autres, tu les sauves par grâce. Et ce matin, tu es là pour nous parler. Alors fais-nous du bien par ta parole, qu'elle puisse retentir dans nos cœurs comme une parole digne d'être reçue et digne de nous faire grandir, de nous faire croître en toi. Merci, Maître. Parle-nous et fais-nous du bien. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs. Gloire à Dieu, nous savons qui nous sommes. Alléluia. Et quand on sait qui on est, eh bien, on est à l'abri de toutes sortes de crises d'identité ou autres. Quand on sait d'où on vient, dans quel état on est, qui on est et où on va, eh bien, quoi qu'il arrive, on sait que la finalité, ça sera la gloire avec notre Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons donc continuer avec notre thème de la fois dernière, à savoir comment grandir, comment croître dans la connaissance du Seigneur. Comment grandir dans cette relation que nous avons avec Dieu au travers du Christ, car c'est dans sa volonté que nous allions de gloire en gloire, de victoire en victoire, que chaque jour qui passe, eh bien, contribue à notre transformation, à notre métamorphose, à l'image et à la ressemblance de notre Père. Comment grandir? Comment croître dans la connaissance vraie de Dieu? La fois passée, pour ceux qui étaient là, nous avons vu très brièvement, avant de lire le passage qui va nous servir de méditation ce matin, nous avons donc examiné très attentivement l'histoire de ce 12 explorateurs que Moïse avait envoyé alors qu'ils étaient aux portes de la terre promise. Avant de pouvoir prendre possession de cette terre qu'il avait déjà donnée à son peuple d'Israël, le peuple n'avait rien à faire de spécial si ce n'est que d'entrer de plein pied dans la promesse que le Seigneur leur avait faite de leur accorder cette terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors qu'ils étaient aux portes de la terre promise, le Seigneur demande à Moïse d'envoyer 12 explorateurs pour aller voir quel était ce pays qui devait recevoir un héritage, quelle était cette terre dont Dieu avait parlé déjà à Abraham. Il lui avait dit, je donnerai à tes descendants une terre, un pays promis où coule le lait et le miel. Quel était ce pays? Comment se présentait-il? Quelle était cette terre? Ils sont donc partis 12, avec une mission bien précise. Oui, ils étaient tous missionnés pour un objectif clair, prospérer, prospecter le pays, explorer le pays, voir comment ce pays se présente, qui l'habite. Dieu savait que ce n'était pas un pays vierge, c'est-à-dire qu'il n'était pas habité, pas du tout. Quelle était la nature, les espèces d'arbres qui poussaient ou qui existaient dans ce territoire? Quel était le peuple qui l'habitait, etc. Le 12 sont partis. Le 12 sont arrivés. Le 12 ont exploré cette terre. Ils ont même recueilli des fruits pour venir présenter à Moïse comme preuve qu'ils ont été jusqu'au terme de leur mission. Mais en rentrant auprès de Moïse et auprès du peuple, le 12 vont faire un rapport. Après avoir fait la même expérience, 10 vont décrire le pays, d'ailleurs tous les 12, hein, ils vont le décrire de la même manière. C'est un pays extraordinaire. C'est un pays où poussent toutes sortes d'arbres fruitiers. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays, etc. Mais 10, c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays habité par des géants. Et nous avons vu ces géants. Et aux yeux de ces géants, nous étions comme des sauterelles. Et à nos propres yeux, eh bien, nous étions aussi comme des sauterelles. Donc c'est impossible, Moïse. Pas question de prendre le risque d'aller nous jeter dans la gueule de ces caïmans-là. Autant rester, c'est bien beau. Dieu a dit, mais entre nous, c'est pas facile. C'est même impossible. Mais 2 vont se détacher, vont faire la différence. Ils vont dire à Moïse et au peuple, c'est vrai, ce pays, eh bien, il est comme nos amis viennent de le décrire. Il y a des géants, il y a des dangers, il y a des obstacles. Cependant, Dieu nous l'a donné, montons, eh bien, nous finirons par le conquérir. Qu'est-ce qui a fait la différence? Tous missionnés par Dieu via Moïse. Eh bien, la différence, c'est qu'ils avaient une vision tout à fait différente. Les 10 avaient une vision fausse, une vision tronquée, une vision inappropriée de Dieu. Ils avaient oublié que le Dieu qui les avait délivrés d'Égypte, qui les avait accompagnés à travers toute leur pérégrination, qui avait ouvert les eaux de la mer Rouge, le Dieu qui les avait nourris dans le désert, en leur envoyant des cailles et de la manne, etc., ce Dieu-là n'avait pas changé et qu'il se tenait derrière sa parole pour l'accomplir. S'il a dit « Je vous donne ce territoire », peu importe ceux qui l'habitent, eh bien nous finirons par le conquérir. Car lorsque lui est avec nous, qui sera ? Lorsque lui est pour nous, eh bien la victoire nous est assurée. Allons, montons et nous gagnerons. L'image de Dieu, la manière dont nous concevons Dieu est fondamentale. Elle est déterminante, mes amis. Et c'est là que se joue la différence. Tous nous avons le nom du Seigneur dans la bouche, oui ou non? Tous nous savons lever nos mains vers lui, le louer, l'adorer. Tous nous pouvons chanter « Je sais qui je suis », etc. Bouger. Tous nous pouvons lire la Bible. Mais tous nous n'avons pas la même attitude lorsque l'épreuve nous visite. Tous nous n'avons pas la même capacité de nous approprier des grâces que le Seigneur nous a laissées en Christ. Tous, nous n'allons pas de victoire en victoire. Beaucoup d'entre nous tournent en rond. Ils font du surplace. Ils sont dans un état de statu quo. Tout cela pourquoi? Eh bien parce que l'image qu'ils ont de Dieu n'est pas conforme à la personne du Dieu de la Bible. Alléluia. L'image qu'ils ont du Seigneur est une image tronquée, c'est une image inappropriée. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans l'Église du Christ vivent avec cette fausse image. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que nous sachions comment développer une image qui soit vraie, qui soit en harmonie avec ce que la Bible dit concernant Dieu. Alléluia. Avec ce que la Bible dit concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Avec ce que la Bible dit concernant la personne est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus-Christ. C'est de cette manière, c'est-à-dire en ayant une image claire, une image correcte, une image qui est en adéquation avec la vérité biblique, que nous pourrions, frères et sœurs, grandir dans cette connaissance et puis expérimenter tant de choses. Et j'avais donc terminé, enfin plutôt introduit ce message, par cette illustration. Mais avant de revenir sur l'illustration de la fin dernière, je voudrais que nous lisions cette fois-ci le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, car lui aussi a eu à faire l'expérience, une expérience qui l'a amené finalement à expérimenter cette vision triphasée ou tridimensionnelle. Cette vision en trois dimensions, cette vision qui nous impacte, qui a une incidence, non seulement sur notre relation avec Dieu, sur le plan vertical, mais aussi une incidence sur nous-mêmes, sur l'image que nous avons de nous-mêmes, mais aussi sur l'image, mes amis, sur l'état moral, l'état spirituel de ceux qui nous entourent. Tant que nous n'aurons pas développé cette vision, il nous sera difficile de servir Dieu comme il faut, alléluia, d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes dans Ésaïe 6. Un texte qui a déjà eu à nous faire du bien lors d'un de nos séminaires. Je voudrais revenir sur ce texte. Ésaïe 6, nous allons lire les 8 premiers versets. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, regardez la réaction, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Mais voici, envoie-moi. On peut bouger un tout petit peu? Gloire à Dieu. Expérience extraordinaire que fit le prophète alors qu'il eut cette grâce de pouvoir aller et d'entrer au temple. Je disais, pour essayer de comprendre la nécessité d'avoir et de développer une vision, une image claire du Dieu de la Bible, une image claire du Seigneur Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, j'ai pris cette illustration basée sur l'expérience des quatre aveugles de naissance qui, un jour, dans leur pays des Indes, eurent l'occasion donc d'approcher un éléphant. Les quatre l'ont touché. Les quatre l'ont approché. Les quatre ont interagi avec le pachyderme. Mais les quatre vont faire une description qui, quelque part, comme nous l'avons vu la fois dernière, eh bien, est loin d'être véritablement l'image d'un éléphant. Le premier qui avait touché la trompe d'un animal décrivit l'animal, l'éléphant, comme étant un tuyau d'arrosage. Un éléphant, c'est comme un tuyau d'arrosage. Le deuxième lui dit, non, tu n'as jamais fait d'expérience ou tu n'as jamais touché l'éléphant. Un éléphant, c'est comme un gros tronc d'arbre parce que lui avait touché la patte de l'éléphant. Le troisième dit, non, je vois que vous deux là, vous racontez des histoires, vous n'avez jamais approché un éléphant. Un éléphant, c'est comme un énorme ballon parce que lui avait caressé le ventre de l'animal. Et le quatrième de dire, non, tous les trois, vous êtes loin de la vérité. Un éléphant, c'est comme un serpent parce que lui avait touché la queue de l'animal qui bougeait. Regardez mes amis, comment les quatre aveugles ont approché l'éléphant. Les quatre aveugles l'ont touché, oui ou non? Mais regardez l'image, mes amis, qu'ils développent ou qu'ils décrivent concernant l'animal. Même si on peut retrouver quelque chose de vrai dans leur description, mais un éléphant, c'est plus qu'un tuyau d'arrosage. Un éléphant, c'est plus qu'un tronc d'arbre, c'est plus qu'un ballon, c'est plus qu'un serpent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il en est de même, mes amis. Il en est donc, je disais, de ces quatre aveugles, comme de beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'entre nous ont fait une expérience avec Dieu. Beaucoup d'entre nous ont approché Dieu, l'ont touché d'une manière ou d'une autre, ont été visités d'une manière ou d'une autre par le Seigneur. Et à partir de leurs expériences, eh bien, ils finissent par développer une image de Dieu qui, dans la plupart des cas, mes amis, reste très très loin de l'image de Dieu telle que nous le trouvons dans la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui viennent des milieux où ils ont connu un papa méchant, un papa qui les battait et tout ça, vont finir par développer l'image de Dieu comme celle d'un gendarme ou d'un policier qui serait là toujours pour verbaliser le moindre écart de conduite. Voyez? Parce qu'à chaque fois qu'on revenait avec le bulletin, eh bien le papa attendait à la porte. Voyez? Et les pauvres enfants se regardaient, oh là là, shérif nous attend. Et alors? Papa. Comment? Trois en français? Nous parlons français à la maison, tu arrives à faire 3/20. Voyez? Tout le temps, au lieu de chercher à comprendre tout cela. Eh bien, on finit par développer l'image de Dieu comme d'un policier qui est toujours là pour verbaliser. Tu as convoité. Hop! Ah oui, pardon Seigneur. Tu as dit ceci. Ah, c'est pardon. Nos expériences nous conditionnent. et nous amène quelquefois à développer des images, certes avec certaines vérités, à l'intérieur de ces images, concernant Dieu évidemment, mais qui sont loin, qui sont aux antipodes, qui sont à des années-lumière de l'image de Dieu telle que nous l'en trouvons, alléluia. Esaïe est entré au temple, et quand il en est ressorti, mes amis, il n'était plus le même, alléluia. Esaïe a fait une expérience qu'il n'aurait pas pu faire ailleurs qu'en entrant dans la maison du Seigneur. Et là, dans la maison du Seigneur, il va faire une expérience qui va le marquer pour le restant de sa vie. Une expérience qui va non seulement lui permettre enfin de voir qui est ce Dieu au service duquel il était déjà. C'était un prédicateur de la parole. C'était un homme qui annonçait, qui prêchait la parole de Dieu à ses contemporains. Il avait une certaine image de Dieu, mes amis. Et par conséquent, une certaine image de lui-même et une certaine image des gens auxquels il s'adressait. Mais lorsqu'il entre au temple, quelque chose se passe. Il réalise qui est Dieu. Et par conséquent, il réalise qu'il était véritablement et quel était l'état dans lequel se trouvait le peuple autour de lui. Nous avons besoin d'une image, d'une vision claire de Dieu. Et croyez-moi, frères et sœurs, c'est en étant avec ce Dieu-là que nous pourrions finir par développer une image qui soit correcte. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors essayons de voir très rapidement quelles sont les vérités que nous pouvons apprendre à partir de l'expérience du prophète Esaïe alors qu'il était entré au temple. Que pouvons-nous apprendre à propos de cette vision qui se révèle sur trois niveaux? En d'autres mots, une vision triphasée, une vision tridimensionnelle, une vision en trois dimensions. Que pouvons-nous apprendre et en même temps? Qu'est-ce que nous devons faire? Car c'est seulement, mes amis, en ayant cette vision triphasée et tridimensionnelle que nous pourrions croître et grandir véritablement dans notre relation avec le Seigneur, dans la connaissance de notre Dieu. Amen. La première chose, c'est que cette expérience du prophète lui a permis, frères et sœurs, d'ouvrir les yeux dans trois directions, comme nous le trouvons dans ce passage, et de recevoir ainsi une vision en trois dimensions. Il est entré au temple, non pas pour jouer au Scrabble. Il est entré au temple, non pas pour s'adonner je ne sais à quel rite, mais il était entré au temple, connaissant la raison d'être du temple, un lieu de la rencontre avec Dieu, alléluia. Il savait que ce temple était le lieu où tout Israélite devait le rencontrer. Devait rencontrer Dieu. Donc il est parti dans ce but-là, que Dieu soit béni. Et pendant qu'il était là, eh bien le Seigneur se révèle à lui. Que voit-il? Il reçoit une vision. Il voit Dieu assis sur un trône très élevé. Alléluia. Il reçoit une vision majestueuse du Dieu de la Bible, qui est assis sur le trône et qui n'est pas du tout inquiété par ce qui se passe ici-bas. Alors que c'était dans un contexte de crise. On n'a pas le temps d'examiner comment le contexte dans lequel cet homme a fait cette expérience, mais c'était un contexte de crise politique, de crise économique, de crise sociale, de crise religieuse. Rien n'allait, mes amis. Et dans ce contexte-là, les gens se posaient des questions. Notre Dieu existe-t-il encore? Est-il encore capable de faire quoi que ce soit? Comment expliquer tout ce problème? Comment expliquer toutes ces crises? Et là, alors qu'ici-bas, tout était en agitation. Alors qu'ici-bas, mes amis, eh bien, toutes sortes de choses négatives se passaient. Que voit-il? Il voit le souverain, l'ancien de jour, assis sur son trône et les pans de sa robe remplissant le temple. Et autour de lui, des saints anges, des chérubins qui se prosternent pour l'adorer et qui proclament sa sainteté à chaque moment. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées. Alléluia. Une vision extraordinaire du Dieu de la Bible. Gloire au Seigneur. Il voit la grandeur de ce Dieu-là. Il voit que ce Dieu-là reste souverain. Quoi que les hommes fassent, quoi que les grandes puissances ici-bas fassent, lui reste assis sur son trône. Lui n'est pas inquiété. Lui n'est pas agité, mes amis. Lui reste le même de toute éternité. C'est pratiquement la même vision que l'apôtre Jean, forcé à l'exil à cause du témoignage du Christ sur cette île, l'île de Patmos. Lui aussi, mes amis, va avoir cette grâce d'expérimenter des choses extraordinaires que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Et là, il voit le Seigneur, alléluia, le Seigneur assis sur le trône. Alors que, à l'époque, dans l'Empire romain, être chrétien signifiait signer son arrêt de mort, alors qu'on en tuait de plus en plus, on le jetait en pâture aux bêtes, alors que les gens éprouvaient du plaisir à massacrer tous ceux qui se réclamaient du Christ, tous ceux qui étaient disciples de Jésus, dans ce temps d'angoisse, dans ce temps de tribulation, dans ce temps de questionnement. Où est-il? Où est le Dieu de Jacob? Où est celui qui a donné sa vie à la croix? Seigneur, tu nous laisses massacrer, tu nous laisses humilier, on traîne notre honneur dans la boue. Où es-tu? Le Seigneur l'amène en esprit. Il le voit assis sur son trône. Alléluia. Mes amis, cette vision est appelée à imprégner nos pensées. Que nous sachions à qui nous avons affaire. Ce Dieu-là, mes amis, eh bien, tient l'univers entier dans sa main. Il n'est pas du tout inquiété par les différents systèmes politiques, les différents systèmes économiques qu'il y a sur cette terre. Il n'est pas du tout, mes amis, inquiété par l'enfer, pas du tout. Il a vaincu à la croix. Il reste assis sur son trône. Alléluia. Et quand on a une telle vision, on peut avancer dans la vie avec sérénité. Même lorsqu'on fait face à toutes sortes de tempêtes et de typhons. On peut avancer dans la vie, car on sait que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est derrière la tempête. Car on sait que celui qui est avec nous est celui qui tient nos vies. Et lorsque il nous envoie quelque part, même si les gens ne sont pas d'accord avec nous, il finira par nous élever aux yeux de nos adversaires. Quand on a une telle vision, on peut avancer dans la vie. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je suis optimiste pour notre ville de Kinshasa. Il est vrai qu'on assiste de plus en plus à une montée macabre de l'immoralité. Il est vrai que partout, mes amis, nous assistons, hélas, à la décrépitude morale, au renversement des mœurs. Quelquefois, nous ne savons quoi faire. Des bars, des lieux de péché, des lieux de plaisir charnel pullulent à travers la ville, oui ou non. Le monde, la mondanité a gagné même l'Église. Et dans un contexte comme ça, on se dit, Seigneur, que faire? Mais lorsque je me tourne vers lui et que je vois cette vision, je dis, Seigneur, quoi qu'il arrive dans cette ville, tu es assis sur le trône. Et puisque tu es assis sur le trône, nous avons toutes les raisons d'aller de l'avant et d'annoncer l'évangile. Alléluia. Peu importe ce que les uns et les autres pensent, cet évangile reste, mes amis, un mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous devons l'annoncer, que cela plaise ou pas aux gens. Nous ne le faisons pas parce que ça plaît aux gens, ou ça déplaît aux gens. Nous le faisons parce que c'est une nécessité. Si quelqu'un n'est pas en Christ, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, mes amis, il est perdu pour l'éternité. Il n'y a pas de lieu où on transite, où finalement, je ne sais par quel miracle, on nous lave, on nous débarrasse de péché, et puis seulement ensuite, on va au paradis. Non, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Ça, c'est le message de l'évangile que nous devons annoncer. Alléluia. C'est un message qui dérange. Parce que l'heure est au syncrétisme. L'heure est à l'œcuménisme. L'heure est à mettons-nous tous ensemble. Tu crois dans Saint-Raphaël, il n'y a pas de problème. L'autre croit dans Saint-Moukadi, il n'y a pas de problème. L'autre croit en ceci, il n'y a pas de problème. Pour autant que nous croyons en Dieu, et on se retrouve, et on boit, et on mange le potage spirituel ou religieux, la Bible nous dit que la mort est dans le pot. Jésus et Jésus seul. Gloire à Dieu. Jésus et Jésus seul. Pas un saint. Pas un ange. Voyez-vous? Or aujourd'hui, de plus en plus de prélats égarent les gens. En leur faisant croire qu'un homme peut être justifié de par sa position dans une religion. Aucune religion ne peut vous amener au ciel. Le ciel est un don gratuit. Et ce don-là, nous l'avons en Christ. Il voit cette vision de ce Dieu-là. Lui-même le dit, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et des séraphins autour de lui criant, Saint, 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 et le Seigneur des armées. Quelle souveraineté toute-puissante de ce Dieu-là. Quelle majesté, quelle gloire. Il reste sur son trône. Le monde a connu des grands empires. C'est pourquoi je vous encourage à lire la Bible, mes amis, pour que vous puissiez mieux comprendre le déroulement de l'histoire. Le monde a connu des grands empires. Voyez-vous? Qui sont tombés les uns après les autres. Et croyez-moi, comme on dit, l'histoire est un éternel recommencement, non? Et aujourd'hui, nous avons des grands empires. Nous avons des grandes nations. Des nations tellement puissantes qu'avec leur capacité nucléaire, sont en mesure de détruire le reste de l'humanité. Voyez-vous? Et ces grandes nations dictent la loi aux plus faibles, aux démunis. Voyez-vous? Mais les dirigeants de ce pays doivent savoir qu'il y a un à qui appartient le peuple, à qui appartient l'humanité. Tôt ou tard, ils auront de comptes à rendre. Je me réjouis de ce que tous ceux qui sont à la tête de ces nations, un jour, à moins qu'ils se repentent, un jour, ils auront face à face avec celui qui est mort pour l'humanité tout entière, qui est mort pour les pygmées qui vivent dans notre pays, qui est mort pour les Esquimaux là dans le nord, qui est mort pour tout homme quel qu'il soit. C'est pourquoi nous devrions tout faire pour que tout homme entende ce message de l'Évangile. Gloire au Seigneur. Il reçoit la vision de Dieu. Il voit qui est Dieu. Il avait entendu parler de lui, comme Job dira, « Mon oreille a entendu parler de toi. » Mais aujourd'hui, mes yeux ont... Alléluia. Il fallait passer du stade de l'écoute au stade de l'expérimentation. Et voir, il a vu, il n'a pas jeté un petit coup d'œil, car, et puis, hop, non. Il a vu, mes amis. Il a vu. Donc voilà la première direction dans laquelle cette vision se dirige. C'est d'abord dans la direction de Dieu. Tout part de Dieu, voyez-vous. Et ensuite, ce Dieu qu'il voit là, ou du moins la vision qu'il reçoit de ce Dieu, va avoir une incidence, va avoir un impact sur l'image vraie de ce qu'il était, sur ce qu'il était véritablement. Il reçoit une image qui n'était pas bonne, oui ou non? Ici, Esaïe n'étale pas sa connaissance, il n'étale pas ses vertus. Il dit, Seigneur, merci, tu as vu ma sainteté, tu as vu combien de fois je jeûnais, oh gloire à toi. Tu as vu combien de temps je passe dans la prière? Combien, Seigneur, de fois je prêche ta parole? Non, il a reçu la vision de son propre péché. En d'autres mots, il a reçu, mes amis, ou du moins l'image de Dieu lui a permis de se voir comme Dieu le voyait véritablement. Voyez-vous? Il réalise, au contact de la lumière du Seigneur, au contact de la gloire du Seigneur, au contact de la présence du Seigneur, il réalise la noirceur morale et spirituelle de son état. Il réalise qu'il était impur. Il réalise que même ses lèvres, cette bouche qui annonçait la parole de Dieu, eh bien, était une bouche impure. Alors même qu'elle proclamait la parole de Dieu, voyez-vous, il réalise qu'il était véritablement, mes amis, vous comprenez pourquoi Jésus a demandé à ses disciples d'aller dans le monde entier. Vous comprenez pourquoi il nous demande encore aujourd'hui, eh bien, de marcher sur les traces des apôtres, en allant un peu partout pour proclamer l'Évangile. Parce que, mes amis, l'Évangile est le seul message spirituel qui permet à l'homme de se voir comme Dieu le voit. L'Évangile, eh bien, mes amis, manifeste la présence du Christ. Et au contact de la présence du Christ, tout homme réalise la noirceur de son état. Tout homme réalise qu'il est pécheur. Quand bien même, il aurait un titre, une position élevée dans sa religion, lorsqu'on approche Christ, on réalise qu'on est perdu. Car la Bible nous dit, tous ont péché. Tous. Sans exception. Tous. Alors, tous. Tous. Tous ont péché. Et par conséquent, sont privés de la présence de Dieu. Comment réaliser son état de perdition? Comment réaliser qu'on est coupable aux yeux de Dieu? Alors même qu'on a une religion monothéiste, alors même qu'on essaye de poser des actes nobles, des actes de religion, de religiosité, comment réaliser cela? Eh bien, c'est au contact, mes amis, de la présence de Dieu. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, eh bien, nous donnons aux gens l'occasion de se placer devant le Seigneur, de laisser Dieu secouer leur conscience. C'est ce qui s'est passé avec cet homme. Au contact de la sainteté de Dieu, sa conscience a réalisé qu'elle était coupable. Son cœur, qu'il avait aveuglé au point de ne voir que le mal auprès de ses contemporains, ce cœur-là, lorsqu'il a été confronté à la sainteté de Dieu, ce cœur, le cœur du prophète, réalise qu'il était tout aussi noir que ses contemporains auxquels il s'adressait et qu'il exhortait d'abandonner le mal pour se tourner vers Dieu. Et la troisième direction, Dieu lui-même, ensuite les gens autour de lui, alléluia. Il reçoit, mes amis, la vision du péché de son peuple. Et en même temps, il réalise, et c'est ce qui est extraordinaire, d'abord pour lui-même, non seulement il réalise la noirceur de son état, mais en même temps il prend conscience de la nécessité de la purification. Alléluia. Le Saint-Esprit ne se contente pas simplement de montrer à quelqu'un qu'il est coupable, mais le Saint-Esprit lui montre aussi le chemin qui conduit à la purification de péché. Et ce chemin-là passe par une personne, conduit à une personne, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix reste singulière et unique dans toute l'histoire de l'humanité. L'homme ne peut pas être débarrassé de la corrosion morale. L'homme ne peut pas être débarrassé de l'impureté, de la souillure, bref, de toutes ces choses qui le noircissent en dehors du sang de Jésus-Christ. Il y en a, hélas, par toutes sortes de rites, par toutes sortes de rites d'ablution, il se lave avec de l'eau, pensant qu'avec cette eau-là, ils seront purs. Vous pouvez vous laver dans les eaux du Jourdain. Entrer avec un cœur de porc. Ressortir avec le même cœur de porc. Voyez. Vous pouvez aller vous plonger dans le Gange. En Inde, hein, qui est considéré comme étant un fleuve sacré, dont les eaux auraient la vertu de laver les gens, vous en sortez, eh bien, vous êtes toujours le même. Si ce n'est que dehors, on pourra voir quelques gouttes d'eau, votre corps est mouillé, votre cache sexe est mouillé, comme ils le font souvent, mais en réalité, vous êtes toujours... C'est le cœur qui doit être purifié. C'est la conscience qui doit être débarrassée de toute œuvre morte. Et par rapport à la conscience, mon frère, ma sœur, et toi qui me suis à la télé, il n'y a pas un autre antidote, il n'y a pas un autre remède, si ce n'est que le sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha. C'est le seul sang qui lave et qui débarrasse un cœur coupable de tout sentiment de culpabilité. Et le peuple, eh bien, il reçoit la vision du peuple très rapidement. La vision du peuple. Il réalise le péché de son peuple et en même temps, le besoin dans lequel ce peuple se trouvait. Alléluia. Mes amis, cette vision tridimensionnelle, cette vision magistrale, de la personne de Dieu a émerveillé, a marqué comme un fer chaud le prophète et lui a permis de prendre conscience de son état d'abord, voyez-vous, et du besoin d'aller chercher la purification de son âme. C'est ainsi qu'il crie, « Malheur à moi, car je suis perdu. » Je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Il réalise qu'il était pécheur. Cette vision de Dieu a eu un effet salutaire, un effet bienfaisant, mes amis, sur l'homme de Dieu. Évidemment, ce n'était pas facile, mais il fallait qu'il soit confronté à cela. Un effet salutaire. Lorsque nous nous voyons comme Dieu nous voit, ou voit, lorsque nous voyons Dieu comme il est, nous pouvons alors nous voir comme lui nous voit. En d'autres mots, nous voir véritablement qui nous sommes. Alléluia. Il y en a qui sont champions dans l'art de donner des fausses apparences, des hypocrites. Ils ont des attitudes extrêmement religieuses. Que cela finisse même par leur donner une certaine manière de marcher, une certaine manière de parler. Voyez ? Je vous bénis. Venez, mon fils. Tout ça, c'est bien beau. Tout ça peut nous amener à susciter en nous de la révérence, de l'admiration, une voix qui sort de l'ordinaire, parce que d'ordinaire nous parlons, ben viens et tout ça. Il a dit, viens. Vous voyez, tout ça peut nous faire du bien, mes amis. Mais attention, notre âme n'a pas de prix. Vous voyez, il a réalisé son besoin. D'abord qu'il était perdu et le besoin d'aller chercher la purification. C'est sur l'autel, alléluia. Dans cette vision, le feu qu'il a purifié, eh bien, est venu de l'autel. Tout cela, mes amis, tout dans cette vision, eh bien, le Seigneur annonçait à l'avance le véritable autel qui allait être dressé plus tard à Golgotha, au mont Calvaire. C'est là que l'autel de Dieu a été dressé et c'est là que Christ a posé sa vie. C'est là que le sang a coulé. Désormais, tout homme qui vient, qui se tourne vers le Seigneur, qui croit en lui, qui fait appel à son œuvre, celui-là est lavé et purifié dans le sang du Christ. Alléluia. Le sang de Jésus nous rend purs. Le sang de Jésus nous lave et nous débarrasse de toute scorie, de toute impureté, de toute saleté. Voyez-vous ? Il a réalisé. Mais avant ça, mes amis, Ésaïe, c'était un homme avec un message très radical. Hein? Ah oui, n'allez pas dans la dentelle, hein? Non, il prêchait, il proclamait avec force, voyez-vous. Quand il s'adressait aux autres, il mettait le doigt où ça faisait mal. Quand vous regardez au chapitre 5, eh bien il a eu à condamner, il a eu à stigmatiser certaines attitudes abominables. Il a eu à dénoncer de choses qui se faisaient parmi ses contemporains, parmi ceux qui se réclamaient de Dieu. Au verset 8 du chapitre 5, il dit « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. » Voyez-vous, la cupidité, la convoitise. Voilà. On en a deux, on pense que ce n'est pas assez. et puis 4, et puis 5. Et puis cela ne suffit pas, voyez-vous. Et on est prêt à ravir, à extorquer les gens, voyez-vous. Tout cela, la convoitise, la cupidité. L'homme de Dieu a dénoncé ça, à juste titre, en effet. Au verset 11, « Malheur à ceux qui s'élèvent de bon matin pour rechercher des liqueurs fortes, à ceux qui traînent dans la nuit échauffés par le vin. » Ah, ça, c'est un message d'actualité. Oui ou non? Ça, c'est un message qu'il faut annoncer. Un message. Tous ceux qui trouvent du plaisir à boire, à s'enivrer. Et quand ils sont sous, eh bien, ils savent même plus ce qu'ils font. Et quand ils se réveillent le matin, ils disent, oh, Nazawapi, vous êtes où? Complètement aveuglés par l'alcool. Ou il y en a qui rentrent à la maison très alcoolisés et ils deviennent un danger pour la famille. Voyez? Soit les enfants s'enferment dans la maison, la femme, la pauvre, elle fuit et tout ça parce que monsieur revient. Et vous savez, dans cet état, on peut penser qu'on est un lion, on croit qu'on est un lion. Alors vous verrez un bout d'homme rempli je ne sais de quelle liqueur qui menace tout un fils d'Anak. Un malabar devant lui, toi je vais te taper. On en a vu. Ça c'est l'alcool. Il a dénoncé, nous devons dénoncer. Oui ou non? Eh bien, c'était un problème à cette époque-là, c'est encore un problème aujourd'hui. Hein. Verset 20, plutôt verset 18. Malheur à ceux qui tirent le mal avec les cordes du vice. Il y a toutes sortes de vices aujourd'hui. Le mal prospère un peu partout. Verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. La confusion. Oui ou non? Ben, le mariage n'est plus un homme avec une femme. Non, deux hommes peuvent se marier. Deux femmes peuvent se marier. Voilà. On appelle bien ce qui est mal et on appelle mal ce qui est bien. Oui. Donc c'est ça. On peut de temps à autre ben, laisser un peu sa femme aller se régaler ailleurs et puis revenir. L'essentiel est qu'on ne découche pas. Oui. Les gens développent des idées incroyables. Oui. Vous savez, le diable est terrible. Il a des arguments terribles. Eh bien, verset 5. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, l'orgueil, et qui se considèrent intelligents. Voyez-vous? Et enfin, le verset 6. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin. Il devait y avoir un problème d'alcoolisme incroyable. Hein? Aux champions de la préparation des liqueurs fortes. Donc, les industries brassicoles prospéraient. Hein, tous ces liquoristes, hein, tous ceux qui fabriquaient l'alcool, tout ça, ça prospérait. C'était un commerce terrible. Vous voyez, la bourse fonctionnait grâce à tous ces gens-là. Malheur, malheur à. Malheur au ceci. Mais quand il entre dans la maison de Dieu, et pour la septième fois, il prononce malheur, cette fois-ci pour qui? Pour lui-même. Malheur à moi. Alléluia. Il réalise que lui aussi n'était pas différent que les gens auxquels il s'adressait. Autant les gens auxquels il s'adressait avaient besoin de se repentir, lui aussi. Vous voyez? Mes amis, pour terminer, nous avons besoin de cette vision tridimensionnelle. La vraie vision de la personne de Dieu. Et nous ne pouvons pas la recevoir si nous n'avons pas une intimité profonde avec lui. Nous ne pouvons pas recevoir, on ne la reçoit pas en une fois. Non, c'est tout au long de notre vie que nous devons apprendre à passer du temps avec Dieu, à nous attarder dans sa présence, à jouir d'une intimité avec sa parole, dans la prière, etc. Tout cela, mes amis, va nous aider à développer une image qui est vraie de la personne de notre Seigneur. Alléluia. Et connaissant mieux notre Dieu, nous pourrions mieux nous connaître. Et je vous assure, il y aurait moins de problèmes parmi nous. Il y aurait moins de problèmes dans les foyers si les gens pouvaient se connaître véritablement. Vous voyez? Il y a des problèmes parce que les gens ne se connaissent pas. Ils sont aveuglés par leur moi orgueilleux, arrogant, par leur hauteur, etc. Et quand il y a quelque chose, c'est toujours l'autre. Et dans certains foyers, c'est toujours la femme. Toi, je te connais. Je me demande pourquoi j'ai épousé dans telle tribu et dans telle famille. Mais écoutez, alors que dans la plupart des cas, c'est l'homme. Mais il ne veut pas reconnaître. Il faut l'amener dans le Saint des Saints. Elle va, là, il réalise qui il est. Et quand il sort comme ça. Chérie, pardon. Gloire à Dieu. La vision de Dieu qui s'articule autour de ces trois axes. Dieu, et puis nous, et enfin les autres. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est en grandissant dans cette relation avec le Seigneur que nous grandirons dans la relation avec nous-mêmes et puis dans la relation avec les autres, que nous réaliserons notre propre besoin, la purification, la demande du pardon, mais en même temps nous prendrons conscience du besoin des autres. Et là, nous ne pourrions pas laisser les gens dans leur fausse religion. On ne pourra pas laisser les gens aller se prosterner sur la tombe, je ne sais de quel ancêtre, en pensant que l'ancêtre va venir nous aider. Il y en a qui vont parler carrément sur des tombeaux. Je sais que tu m'écoutes. Ouais. Oui, ça peut vous faire du bien, mais mon frère, il n'y a rien. Dans 50 ans, au même endroit, il y aura une cité. Hein. À ce moment-là, l'ancêtre partira où? Vous voyez, c'est ça. Ils partent, il n'y a rien. Ce sont les ossements, il n'y a rien. Parce que nous sommes superstitieux. Il y en a quand ils passent devant un cimetière. Nous sommes superstitieux, il n'y a rien. Vous pouvez dormir avec un cadavre dans la maison. Et ne pas faire de cauchemar, il n'y a rien. Mais à cause de notre arrière-plan là, aïe, 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 aïe. Comment? Le cadavre était là? Oh! Bref, Dieu veut que nous le connaissions comme il faut. Alors je voudrais que nous inclinions nos têtes dans la prière. Alléluia. Nous te remercions pour ta parole. Nous te demandons de nous aider à développer une image qui soit correcte, en accord avec ta parole. Une image vraie, car c'est dans la mesure où nous grandirons dans cette image vraie de ta personne, de l'œuvre accomplie à la croix pour nous, que nous pourrions alors développer une vraie image de nous-mêmes. C'est alors que nous pourrions réaliser nos vrais besoins, mais aussi les vrais besoins des gens avec qui nous vivons, les gens qui nous entourent. Ô Père très saint, que cette parole reste dans nos cœurs, que nous cherchions à avoir de plus en plus de contact avec toi par la prière, à entrer régulièrement dans le Saint des Saints, car c'est là que, Seigneur, tu modèles notre image de ta personne. C'est là que tu nous façonnes, c'est là, ô Dieu, que tu nous transformes, mais c'est là aussi que nous réalisons notre vrai besoin. Et en même temps, quand nous sortons de là, nous voyons nos amis, les membres de nos familles, comme toi tu le vois, des pécheurs ayant besoin de ta grâce. Merci Père,